Je vais relire donc le passage qui soutient ce message sur le péché vu sous l'angle de l'identité dans Matthieu 16, ce fameux passage où Jésus parle de l'identité, de son identité, mais en même temps de la nôtre. Hein. Donc Matthieu 16, où la question de l'identité est évoquée par Jésus. Matthieu 16, je lis à partir du verset 13. Jésus est arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe. Césarée de Philippe est tout en haut, c'est la ville la plus haute dans la Galilée, hein, si vous voyez Israël, tout en haut au nord. Et c'est déjà sur le pan de la montagne de l'Hermon. Hein. L'Hermon, c'est une montagne où il y a des neiges éternelles. Hein. Vous savez, on voit Israël sous la chaleur, mais il y a des neiges éternelles parce que c'est une montagne très très haute. Voilà. Et Césarée de Philippe est au pied de cette montagne. Donc il posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il le recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celle des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Voilà la question d'identité posée par Jésus. Qui dit-on que je suis? Et ensuite après, les disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» On voit que seul Pierre, seul, peut-être d'autres après lui l'auraient fait, mais il est très spontané, donc il a devancé toujours les autres, dans le bien comme dans la bêtise parfois. Mais voilà, il est spontané, il est simple, et il dit une vérité sur Jésus, qui est son identité, bien que Jésus reconnaît aussi son identité d'homme, puisqu'il dit « moi le fils de l'homme ». Il est dans son identité le fils de David au travers de la filiation de Joseph, et il le reconnaît. Il ne méprise pas cette identité humaine, hein, parce que les Écritures disent que le Messie viendrait au travers de la filiation de David, de Judas. Et Pierre donc donne cette révélation que Jésus identifie comme venant de Dieu, du Père lui-même, que ça ne vient pas de Pierre. Et vous avez la preuve que Jésus a raison, puisque à peine Jésus avait fini sa phrase, que Pierre le reprend et lui donne une recommandation, même un reproche. Vous voyez, Pierre ose même faire un reproche à Jésus en disant « Seigneur, non, là tu dis des bêtises, vous voyez ». Pierre dit à Jésus, non, tu dis des bêtises devant tout le monde, vous voyez, il ne se gêne pas, vous voyez, ce culot hein, de Pierre. Et Jésus est obligé de lui dire, arrière de moi, Satan, parce que tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Et vous voyez que Pierre, dans la chair, il peut effectivement ne pas reconnaître l'identité de Jésus, parce que s'il avait reconnu l'identité de Jésus comme Messie, ce qu'il a dit au départ, il a dit tu es le Messie, le Fils de Dieu. Si ça venait de lui, il n'aurait pas pu dire ce qu'il a, il n'aurait pas pu faire les reproches, parce qu'il savait que le Messie dans Ésaïe, c'est le Messie souffrant. Donc Jésus n'a rien compris, non, Pierre n'a rien compris, même s'il a identifié l'identité de Jésus. Parce que c'est par révélation. Alors, je dis ça pour mettre l'accent sur une réalité qui nous concerne, nous. Nous, on est des petits Christ, des chrétiens, d'accord ? Des petits Christ. Et nous, on est comme Pierre. Hein ? Comme Pierre, on n'est pas comme Jésus. Il y a quelqu'un qui est comme Jésus ici ? Non, personne. Hein, ce chant qui dit « personne comme Jésus ». C'est vrai. Donc, nous devons reconnaître que notre identité est faillible. Elle a des failles. Celle de Jésus n'a pas de faille. Aussi bien sur le plan de la filiation humaine, en tant que fils de David, il n'y a pas de faille. On voit son comportement avec Jésus, avec sa mère, avec ses frères. Bon, il a été ferme, mais toujours courtois, toujours, voilà, il s'est comporté en fils comme il devait le faire. Mais en même temps, il avait son identité de fils de Dieu. Également, il l'a fait parfaitement. Il a parfaitement obéi à son Père dans le ciel, jusqu'à aller sur la croix, jusqu'à donner sa vie pour nous, pour accomplir le plan divin. Mais Pierre, non. Pierre, en même temps qu'il a une révélation, et Jésus le félicite en disant « Oui, Pierre, c'est bien. » Et en même temps, quelques minutes après, eh bien, il fait la plus grosse bêtise de sa vie en reprenant Jésus pour lui dire que ça ne lui arriverait pas. Et ça, c'est un peu notre histoire. C'est un peu notre histoire. Nous sommes faillibles. Mais le gros problème de cette histoire, ce n'est pas tellement ça, le fait d'être faillible, mais c'est le fait de ne pas le reconnaître. Alors, les psychologues qui essaient d'aider les gens, sur le plan de l'âme, ils connaissent ce mécanisme qu'ils appellent le déni. Le déni, c'est quand la particularité d'un psychologue, c'est qu'il apprend comment fonctionne un être humain dans différents domaines. Alors bon, avec des thèses, avec des modèles de comportement, mais il en sait plus que nous, puisque il passe ses études qu'à faire un master pour comprendre les choses de manière objective, pour voir comment les gens se comportent. Et ils savent très bien que s'ils veulent aider quelqu'un, si la personne est dans le déni, c'est-à-dire si le psychologue lui dit « Voilà, tu te comportes comme ça, comme ça, comme ça, je le vois parce que je t'écoute depuis pas mal de temps, et voilà quelles sont les raisons, enfin quelles sont les supposées raisons parce que je discerne ceci, cela », et la personne dit non, il ne peut rien faire. A rien fait. Il ne peut rien faire. Ça s'appelle le déni. Et tous les gens de cette profession, ils ont tous la même expérience quand vous lisez leurs livres, j'en ai lu plusieurs. Eh bien, il y a des gens qui font des séances pendant 4 ans, il ne se passe rien. À rien. 4 ans, toutes les semaines, il ne se passe rien. Ils donnent même de l'argent pour ça. Alors que certaines personnes, en 2 séances, ils sont guéris. En 2 séances. Tellement parce qu'ils reconnaissent, ils disent oui, je reconnais, ce que vous dites c'est vrai, et cette vérité eh bien, permet la guérison, elle permet de changer de comportement, elle permet de changer d'orientation. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Et là, on est sur le plan simplement de la connaissance pure, sans parler du spirituel qui, bien sûr, aggrave les choses. Alors, nous, notre identité, elle est double comme celle de Jésus. Elle est double. Elle est humaine et elle est spirituelle. En tant que chrétien, on parle de la nouvelle naissance ou de la naissance d'en haut, ce que je préfère un petit peu, parce qu'on voit qu'on a une naissance d'en bas et une naissance d'en haut. La naissance d'en haut nous donne une nouvelle identité. L'identité que nous avons en Jésus, en Christ, comme le disent les Épîtres. Et par ailleurs, nous avons une autre identité, qui est l'identité que nous avons naturellement. Or, les deux identités sont faillibles. La première, celle de notre identité humaine, elle est faillible pour un tas de raisons. Je veux vous en évoquer un petit peu pour que vous puissiez ne pas être dans le déni. J'aimerais que personne dans cette Église ne soit dans le déni de qui il est. Parce que vous bloquez, vous, votre potentiel. Vous bloquez vous-même la possibilité d'évoluer. Vous bloquez vous-même la possibilité de changer et de devenir ce que Dieu veut pour vous. C'est ça le drame. Hein. C'est la seule personne que vous offensez, c'est vous-même. Hein. Et c'est dommage de ne pas pouvoir rentrer dans votre potentiel. Et Dieu ne peut rien faire. Hein. Dieu ne peut rien faire parce qu'il vous laisse votre choix, il vous laisse votre libre arbitre, votre libre volonté de dire non. Voilà. Mais je vous encourage à dire oui, mais ça demande beaucoup d'humilité. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'humilité de certains que nous avons rencontrés à RNC, qui a été assez magistrale, pour reconnaître, pour dire devant tout le monde, voilà, telle et telle chose, je suis dans cette faillite, mais je me remets à vous, si vous voulez bien me reconnaître, etc. Voyez-vous, ça, c'est une grandeur d'âme, comme on dit. Mais bon, ça, c'est des grands mots. Mais la réalité, c'est que vous, vous bénissez vous-même. Hein, vous, vous bénissez vous-même. L'humilité vous donne une grande capacité d'aller loin et d'aller jusqu'au bout de votre potentiel. Mais l'autre identité est aussi faillible. Et ce matin, Sonia l'a dit merveilleusement. Elle nous a donné un exemple de cette faillibilité de la foi. Elle aurait dû exercer la foi pour le travail, mais pensait que c'était pas grand-chose, finalement. Bon, c'est juste un petit travail de quelques semaines, voilà. Et ça marche pas, vous voyez. Et elle a dû apprendre quelque chose sur la foi. C'est parce que si on n'exerce pas la foi, eh bien, cette identité, elle reste un mot. C'est pas une réalité. C'est par la foi que nous avons l'identité en Christ. Alors, dis à ton voisin, c'est par la foi que tu es en Christ. Dis-le à ton voisin, c'est par la foi que tu es en Christ. Voyez-vous, les églises traditionnelles ou conventionnelles, tout ce que vous voulez, ou de multitude, que ce soit catholique, protestante ou évangélique, les églises de multitude évangélique maintenant, on appelle ça des méga-church. J'y crois pas aux méga-church. Jacques Effort non plus d'ailleurs, donc je ne suis pas tout seul. Les églises de multitude, eh bien, ils pensent qu'elles sont chrétiennes par le baptême. Alors, certains par le baptême. Alors, les catholiques, les réformés, enfin, les protestants sont moitié-moitié. Alors, bon, donc, voilà, ils ont déjà un chemin un petit peu sorti de ça. Et puis, les évangéliques, c'est pareil. C'est le baptême d'eau. Voilà, ils sont baptisés d'eau, adultes. Alors là, en plus, ils ont la médaille. Hein, ils peuvent même... ils ont même le droit de mépriser ceux qui ne le sont pas. Voilà. Donc vous voyez, ça donne encore, c'est encore pire. Mais le baptême, c'est juste une fois, vous rentrez dans les eaux du baptême. Il n'y a qu'un seul baptême, c'est l'alliance avec Christ qu'on fait au moment du baptême. Mais c'est comme le mariage. Est-ce que la cérémonie du mariage, quand on se marie, est-ce que ça fait le mariage? Est-ce que c'est le mariage? Hein? Est-ce que la cérémonie de mariage, c'est le mariage? Non, c'est la cérémonie. Ça s'appelle cérémonie. D'accord? C'est une grande fête où vous invitez tout le monde, vous dites, voilà, je m'engage avec mon conjoint. C'est la cérémonie. Mais il y en a qui pensent que c'est le mariage. Bah non. Hello? Qu'est-ce que tu dis, René? Voilà, la vie au quotidien ensemble. C'est ça le mariage. Hello? Parce que vous êtes mariés à vie. Vous avez une alliance à vie. Et cette alliance, il faut l'entretenir. Alors, il faut l'entretenir. Si on ne l'entretient pas, elle n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'il y avait une belle cérémonie avec le jeu d'orgue, alors ici on n'a pas d'orgue, voilà, avec des grandes fleurs, des grands machins, que c'est le mariage. Non. C'est une cérémonie. Mais après, la vie commence. La fête commence. Et c'est toute la vie, et il faut entretenir. Et c'est là que ça devient difficile de persévérer dans cette entreprise de l'alliance du mariage. Ben, l'alliance avec Jésus, c'est la même chose. C'est pas parce qu'il y a eu un baptême à un moment donné que j'ai donné ma vie à Jésus que voilà, je suis chrétien. Non, Je suis chrétien dans la mesure où tous les jours, je fais la volonté de Dieu. Ok ? Et c'est là que c'est difficile. Et si on ne fait pas la volonté de Dieu, eh bien, on n'est pas en Christ. Donc, mon identité, elle est immatérielle, mais elle n'est pas réelle. Ok ? Vous me suivez ? C'est assez simple. Donc, les deux identités sont faillibles. Celle de Jésus, elle est parfaite, parce qu'il était fils de Dieu, mais attention, il a mis sa confiance dans son Père chaque jour, il priait chaque jour, il allait vers son Père, il vivait sa vie chrétienne, je dirais, au quotidien. Il n'a pas simplement reçu le baptême du Saint-Esprit au moment où il rentrait dans son baptême, mais après, tous les jours, il allait vers son Père, et les Écritures nous parlent de sa vie spirituelle et de sa vie sociale. Et les deux vies étaient identiques à son identité, identité d'homme et identité spirituelle. D'ailleurs, vous avez remarqué dans le texte, Jésus a interdit sévèrement de parler à ses disciples, de dire ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Pourquoi il leur a interdit sévèrement de dire aux disciples que Jésus était le Christ? Pardon ? Parce qu'il n'y a pas de... Absolument. Absolument. Parce que si les disciples l'avaient dit, ils étaient responsables de démarrer une religion. Vous voyez, la religion, les gens, ils aiment bien la religion. À la religion, c'est quelque chose... même la religion athée, hein, c'est une religion, hein. Religion, c'est être relié à des idoles. Est-ce que tu sais pourquoi en France, enfin, c'est une des hypothèses, mais il est assez vérifié. En France, les Français sont les plus déprimés de la planète. Ils sont déprimés. Ils prennent le plus de... En France, on utilise, par tête d'habitants, bien sûr, le plus d'anxiolytiques. Hein, c'est ça ? Donc je dis pas de bêtises, antidépresseurs et tout ça, voilà, voilà. Alors on fait ça pour oublier, vous voyez, un peu comme l'alcool, voilà. Donc ça prouve que ils ont un mal-être, ils sont pas contents. Or la France, la plupart des gens disent c'est un beau pays. C'est vrai, c'est un beau pays. Vous aimez la France ? Hein ? Regardez. Il y a beaucoup de... Oui, alors qu'est-ce que tu penses que c'est que la croyance ? Qui fait ça? Oui. Alors pourquoi les Français sont déprimés comme ça? Parce que, voilà, mon frère, il dit que c'est parce qu'ils n'ont pas la croyance. On rentre dans des débats là. Oui. Qu'est-ce qu'ils pensent ? Ah, oui, tout à fait. Ils ont une mauvaise identité. Oui, c'est la réponse. Ouais. Les Français sont déprimés, ils ont des espoirs, parce que ils sont idolâtres. Ils sont idolâtres. Alors, vous m'auriez dit ça il y a 20 ans, j'aurais dit, t'es fou, quoi. Enfin, moi, j'étais pasteur, je ne savais pas. Et Dieu m'a repris, que j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi c'est aussi difficile de faire une église en France, quand il y avait des gros problèmes? Et le Seigneur m'a dit, c'est à cause de l'idolâtrie. Je dis, quoi, Seigneur? J'ai mal entendu, là, c'est un mot là qui ne résonne pas. Parce que pour moi, l'idolâtrie, c'est l'Afrique, hein. Enfin l'Afrique ou le pays en voie de développement, tout ça, mais pas la France. Il a dit, c'est l'idolâtrie. Alors j'ai noté, parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire, j'ai noté, voilà. Et puis petit à petit, le Seigneur m'a enseigné sur les... Et je pense que les Français sont les plus idolâtres du monde. Enfin, ça c'est moi. Hein. J'ai pas écrit de bouquin là-dessus, mais si j'avais à l'écrire, je l'écrirais. Hein. Les plus idolâtres du monde. Parce que c'est quoi l'essence, le fond de l'idolâtrie, c'est quoi? Le fond du fond, c'est-à-dire ce qui fait l'idole. Et rappelez-vous combien les apôtres ont dit, Pierre en particulier, faites attention aux idoles. Ouais. Ça vient de quoi le mot? Simplement, il suffit de connaître l'étymologie du mot. Idole, ça vient de quoi? Ça vient de idée. Non, mais vous savez, le langage, il ne faut pas chercher midi à 14h. C'est dans le mot, il y a déjà l'idée du départ, quoi. C'est l'idée. Les Français, ils n'ont pas d'idée? Ils n'ont pas de pétrole, mais ils ont des idées. C'est ce qu'on dit. Ben non, mais c'est l'idée. Ils ont des idées. Ils sont géniaux, les Français. Non, mais vous voyez, il y a le pire et le meilleur dans l'idée. Hein. L'idée, c'est « Eureka, j'ai trouvé ». C'est incroyable le nombre de choses qui sont inventées en France. Elles ne sont pas développées, mais bon, ça, c'est autre chose. On n'est pas très bon développeur. Mais des idées, il y en a à chaque seconde. Alors, il y en a même certains qui disent qu'il y en a tellement qu'en fait, on ne peut pas suivre des gens tellement il y a d'idées. Qui fusionne, quoi, hein, et les Français est capable d'avoir des idées absolument géniales. Donc ça, c'est positif. Mais le négatif, c'est que l'idée, quand elle devient idole, elle remplace Dieu. Voilà. C'est ça le problème. L'idole, vous savez très bien, je l'ai déjà dit, c'est une bonne chose qu'on pousse trop loin. C'est une bonne chose. L'idole, c'est une bonne chose qu'on pousse trop loin. C'est tout. Il faut simplement dire, bon, c'est une bonne idée, mais Dieu est au-dessus de cette bonne idée. C'est Dieu qui donne les idées, ok? Dis à ton voisin, c'est Dieu qui donne les idées. Donc c'est Dieu qui donne cette capacité aux Français d'avoir des idées. T'es pas d'accord, Annick? Hein, ton mari, il a des idées incroyables. Non, mais il est génial. Hein, il suffit de le rencontrer quelques minutes, voilà. Mais, absolument. Et tous, vous êtes géniaux, tous. Dis à ton voisin, t'es génial. Oui. T'es génial. Mais ce matin, je vous dis une bonne nouvelle, il y en a un qui est plus génial que toi, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus qui donne les idées. C'est Jésus qui t'a créé. C'est Jésus qui t'a fait comme ça. Amen. Et c'est quand on donne gloire à Jésus qu'on peut devenir génial sans tomber dans l'orgueil. C'est le problème de l'orgueil, en fait. Le problème de l'orgueil. Le Français est orgueilleux. D'ailleurs, les Allemands... vous savez, les Français ne veulent pas trop écouter ce que disent les autres. Mais c'est intéressant, parce que souvent, on sait qui on est par les autres. Et les Français, ils ne peuvent pas piffrer les Français, les Allemands. Pourtant, ils disent qu'ils aimeraient tous vivre en France, parce que pour eux, c'est comme si Dieu vivait en France. Wie Gott in Frankreich. Voilà, ça c'est leur truc. Parce que c'est super, quoi. C'est super, quoi. Beau temps, vous avez, enfin, bon, pas en ce moment, mais voilà. Enfin bon, voilà, c'est la réputation qu'on a. Mais pas les Français, hein. Ils veulent vivre en France, mais sans les Français. Il y en a un autre que j'ai découvert, bon, ça c'est Philippe Jouret qui l'écrit dans son livre, donc je donne mes sources, que le général de Gaulle disait « J'aime la France, mais pas les Français. » Waouh, c'est choquant, hein. « J'aime la France. » Ah oui, c'était... La France. Vous voyez, c'est l'idée de la nation extraordinaire. Mais dès qu'on touche aux Français, voilà, c'est la pagaille. D'ailleurs, Churchill disait à De Gaulle, mais tu peux pas gouverner un pays comme ça, avec 365 fromages. Voilà, c'est impossible. Hein. Parce qu'en Angleterre, il y en a trois. Alors, facile, trois fromages. Ça, c'est pour la boutade. Revenons à nos moutons. Les idées, c'est très bien, mais quand elles sont poussées trop loin, elles deviennent des idoles. Et l'identité du Français, l'identité de notre culture, effectivement poussée trop loin, eh bien ça devient une idole, on s'appuie dessus. Et quand on s'appuie dessus, la parole de Dieu dit que maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. C'est comme un roseau percé. Vous appuyez dessus et ça vous traverse la main. Pas grave ça. Hein, mais on s'appuie, si on s'appuie sur quelque chose qui est fragile, humain, ça vous perce la main, ça vous détruit. Si vous appuyez sur le rocher qui est Dieu, Jésus, eh bien vous n'aurez pas ces inconvénients. Et c'est le problème du Français, de la culture française en particulier. Alors, là, je suis en plein dans la description de la construction de l'identité. Comment est-ce qu'on construit son identité naturelle. Il y a l'identité spirituelle, on reviendra là-dessus. Et c'est très important, bon, c'est tous les enseignements du torrent qui purifient, entre autres, et qui commencent par là, par cet enseignement de base, l'identité en Christ. Mais l'identité naturelle, c'est important de savoir un peu les ressorts qui font qu'on sait qui on est dans le naturel. Parce que comme ça, on s'évite d'être dans le déni. Parce que quand on ne sait pas, il y a beaucoup qui font la politique de l'autruche. Je ne sais pas. Oh, la psychologie, les machins, tout ça, ouais, c'est démoniaque. Alors, vous voyez, il y a même hier à RNC qui ont dit, des chrétiens qui ont dit, oh, c'est Emmanuel Valls, quoi, c'est l'antéchrist. Voilà. Et vous voyez, il suffit de diaboliser quelque chose, comme ça vous êtes sûr, hein, de ne plus toucher, hein, et de dire n'importe quoi. Non, c'est trop facile ça. Il faut rester mesuré, parce que notre ennemi, c'est le diable. Okay, c'est pas les hommes. Nous aussi, on peut être diabolisés. Hein. Regardez Pierre. Hein. Jésus a dit, regarde-moi Satan. Donc, on aurait pu dire, ma Pierre, c'est le diable. Il y en a qui disent ici, Pierre, c'est le diable. Mais pourquoi vous ne le dites pas? C'est plus facile de dire de Pierre que de Manuel Valls. Parce que Jésus l'a dit. Vous avez une autorité pour dire, Pierre, il est démoniaque. Bah oui. Il est satanique. Mais, non, mais pour montrer la limitation des chrétiens. Soyons au-dessus de tout ça. Donc pour revenir à l'identité, notre identité humaine, alors Jésus, lui, avait l'identité de la filiation de David, et il savait qu'il était fils de David. Je sais que c'est difficile parfois porter certaines identités familiales, par exemple. Jack et Ford, on était avec Florence d'ailleurs, je ne sais pas si c'est à ce moment-là qu'il nous a expliqué comment il se comportait avec ses enfants. Parce que souvent les enfants de pasteurs, c'est pas facile à vivre pour eux, parce que voilà, on s'attend à ce qu'ils soient parfaits, parce qu'ils sont enfants de pasteurs, voilà, c'est une idée comme ça qui court, il faut qu'ils soient parfaits. Et alors c'est une pression sur eux, sur les enfants. Je pense pas que vous ayez trop vécu ça. Bon, voilà, grâce à vous d'ailleurs. Merci aux chrétiens, hein. Parce que c'est les chrétiens qui mettent la pression. Ils doivent être parfaits. Et du coup, ils le vivent mal parce que voilà, ils ont aussi le droit d'avoir leur défaillance, machin, etc. Voilà. Et souvent, les enfants de pasteurs sont les pires après dans la société parce qu'ils rejettent, voyez, l'identité. Et Jack Efford, pour éviter ça, il disait à ses enfants, il disait, vous êtes des Efford. Vous n'êtes pas les enfants de pasteurs. Non, non, vous êtes des efforts, c'est intelligent ça. Et vous, l'identité, c'est aussi une façon de tourner les choses pour que pour l'enfant puisse se situer de la bonne manière et éviter des coups. Parce que les chrétiens qui disent, ouais, regarde ce qu'il fait. Bah oui, à 12 ans, bah, il fait des bêtises, et alors hein, bah, il était montré du doigt, voilà, et puis souvent, vous savez, un enfant qui est montré du doigt, il a tendance à faire plus de bêtises qu'autre chose. Donc, on n'aide pas. Donc, notre identité de filiation, parfois, il y a des noms de famille qui sont difficiles à porter, pas que le nom lui-même, mais le contenu. Et ça joue aussi sur notre déni. Sur le fait de dire, non, non, non. Parce que si je dis qui je suis, vraiment, qu'est-ce qu'il va penser de moi ? Hein ? Voilà. Donc, l'identité, si on veut, ceux qui ont réfléchi à la question, hein. En tout cas c'est pas moi parce que c'est pas l'origine de ma formation, mais l'identité d'une personne, hein, c'est une construction, une structure, ce qu'on appelle une structure psychologique, une structure de personnalité qui se fait dans le temps, hein. C'est-à-dire voilà, dans le temps. Et puis il y a des ruptures d'identité, hein. Récemment, même l'Assemblée nationale a voulu remettre ça, c'est pas évident, sur l'identité française, hein, au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que c'est que l'identité française? Bien sûr, avec tous les immigrés qui viennent, on ne sait plus trop qui on est. Qu'est-ce que c'est un Français? Est-ce que c'est parce qu'il est né ici ou parce que voilà. Donc vous voyez, l'identité, c'est passe par des crises. Et dans notre vie, on passe par des crises. Des crises de l'enfance, des crises d'adolescence, des crises de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, les crises. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, il y a le regard des autres qui nous renvoie une image qu'on n'attendait pas et on se remet en question. Voilà, donc l'identité n'est pas stable. C'est ça que je vais vous faire dire. L'identité, par nature, n'est pas stable. Donc elle est faillible, comme je le disais, et n'est pas stable. De même manière que l'identité spirituelle n'est pas stable, parce que notre foi n'est pas toujours ancrée dans le Seigneur, il n'est pas toujours là-haut, en force. Si on était à 100%, 7 jours sur 7, 3660 secondes par minute dans la foi, pas de problème, ce serait comme Jésus. Ce n'est pas le cas. Donc, dans les deux cas, on est faillible. Et dans le cas de l'identité, de notre identité, on est. Et quand on est en bas, on n'a pas toujours tendance à ce que les gens le voient, qu'on est en bas. C'est ce qu'on appelle un peu, voilà, bon, pas forcément de l'orgueil, mais on ne veut pas trop se montrer. Voilà. Et voilà, parce qu'on veut passer le cap de cette crise un petit peu, bon, ce qui est tout à fait naturel. Bon, si ça ne dure pas longtemps, bon, c'est pas grave. Mais il y en a qui veulent cacher qu'ils sont vraiment aux yeux des autres, parce qu'ils ont une autre image d'eux-mêmes. Vous voyez, ils ont une image de soi qu'ils veulent absolument projeter. Et c'est ça le problème. Parce qu'ils se cachent à eux-mêmes et se cachent aux autres. Alors je vous fais réfléchir un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Vous vous rappelez dans le jardin d'Éden? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont péché. Mais sur le plan psychologique, parce que c'est là-dessus que je vais vous ramener, pour appliquer notre formation à la parole, avec la parole de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient peur? Mais j'attends encore un mot. Ils sont cachés. Vous vous rappelez? Qu'ils se sont cachés? Hello? Vous voulez qu'on lise la Bible, non? Vous vous rappelez l'histoire de la Bible, la Genèse, là? Hein? Voilà. Ils ont péché, ça c'est vrai. Mais ensuite, après, ils ont eu peur et ils se sont... Alors, on le redit. Ils ont péché, ils ont eu peur, ils se sont cachés. Ils ont eu peur de qui? Pourquoi? Il est mauvais, Dieu? Ah! Alors, il y a plusieurs explications, là. Oui. Il y a plusieurs explications. D'une part, parce que, voilà, ils ont eu honte, mais il y avait une autre raison. Et la raison, je vous renvoie à Luc 19, 10, la parabole des talents. Vous vous rappelez la parabole des talents? Ou des mines, si vous voulez, parce que c'est une somme d'argent. Suivant Luc ou l'évangéliste, c'est un talent ou une mine. Qu'est-ce qui s'est passé dans Luc 19? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a distribué une certaine somme d'argent. Et qu'est-ce qu'il a fait le dernier? Ce qui m'intéresse, c'est le dernier. Et pourquoi il a enterré? Il a dit pourquoi? Pardon? J'écoute la bonne réponse. C'est pas suffisant, la bonne réponse, c'est dans le texte, il est marqué parce que, il a eu peur, parce que, c'est toujours le parce que qui est important. Parce que tu es un maître dur. Parce qu'il a donné la raison de la peur. C'est ça qui m'intéresse, vous voyez. En psychologie, on cherche toujours à savoir la raison. Pourquoi la personne a peur? Parce qu'on trouve la racine. Parce que la peur, bon, tout le monde a peur, hein, mais la raison. Tu es un maître dur. Il a accusé son maître d'être dur. Jésus. Oui. Et dans le jardin d'Éden, très probablement, c'est pas marqué, donc il faut que je prenne une autre histoire dans le Nouveau Testament pour expliquer cette Genèse, mais probablement ils ont dû penser que c'est un maître dur. Sinon, s'ils avaient pensé que Dieu était un maître bon, ils ne seraient pas cachés, ils auraient simplement dit bah, on a fait une bêtise. Voilà. Mais ils pensaient qu'ils allaient être châtiés. C'est ça, quand on pense que le maître est dur, c'est qu'il va nous châtier. Donc ils se cachent, ils ont peur, ils ont honte, ils ont... Ouais. Et c'est ça qu'on fait psychologiquement dans notre identité personnelle. On veut se cacher. Alors, dans le naturel, on a des bonnes raisons de se cacher. Parce que la justice des hommes, hein, vous la connaissez, il vaut mieux se cacher parfois quand on n'a pas beaucoup d'argent, quand on n'est pas riche. Bon, ça, c'est de la sociologie, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc, on peut avoir de bonnes raisons. Mais dans l'Église, non. Mais le problème, c'est que les chrétiens dans l'Église font la même chose que dans le monde. Ils se cachent. Ils se cachent, ils cachent leur identité, ils essaient de passer pour quelqu'un d'autre, alors que tout le monde voit qui ils sont. C'est ça qui est bête. Il y a des chrétiens qui ne changent jamais. jusqu'à la fin de leur vie, alors que le pasteur voit comment ils sont, les autres voient comment ils sont, et disent non, 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 non. Et ils se font du mal. Ouais. Quand on se cache, quand on reste, on veut avoir une autre identité que celle qu'on a réellement, mais voilà, on a honte de le dire. Un, c'est un manque d'humilité. Mais bon, ça, la personne ne va pas le reconnaître, c'est un manque d'humilité, que c'est de l'orgueil. Mais il se fait du mal à elle-même. Donc, pour revenir à l'identité, déjà, c'est instable, c'est faillible. Et puis, en plus, c'est le produit d'un tas de choses autour de nous. C'est le produit de notre environnement. Le produit de notre environnement, tout ce qui nous entoure, la scolarité, les enfants, si vous avez eu un maître qui était très dur avec nous, ou une maîtresse, etc., enfin, tout ça, ça joue sur votre identité, qui vous est. C'est la famille, ensuite après, c'est le produit de la culture ambiante. S'il y en a qui s'habillent comme ça, il faut que tout le monde s'habille comme ça. Bon, c'est la crise de l'adolescence, on cherche une identité dans les stars, etc., voyez, etc., etc., qui fait que notre identité, elle est le reflet, non pas de nous, de ce qui nous entoure. Donc vous voyez bien que ce n'est tout sauf quelque chose de solide. C'est fragile. Jésus, regardez comment il a vécu dans son temps. Il ne s'est pas laissé influencer par Johnny Hallyday. Bon, c'est vrai, il n'existait pas. Hein? Mais il est allé dans le temple pour s'occuper des affaires de son père à 13 ans. Et on le voit, d'une certaine manière, déjà responsable, déjà très tôt, parce qu'il est conscient de son identité d'homme, je parle, vis-à-vis de la mission qui était le trône de David, parce qu'il savait qu'il était dans la mission du trône de David et il connaissait les Écritures. Voilà, donc l'identité naturelle se modifie au cours de l'existence, elle n'est pas stable, elle est incomplète, elle est fragile. Et le problème, c'est qu'on veut la protéger, c'est ça le problème. On veut la protéger. Et même pire que ça, je vous ai lu un article que je vais relire parce qu'il est très important, d'un psychanalyste Lipsianski, qui dit que la construction de l'idéal du moi, alors vous voyez, on est dans l'idéal, et le français, il a un grand idéal. Ça veut dire qu'il est génial, c'est vrai qu'il a des idées, etc. Mais le problème, c'est qu'il est agaçant pour les autres, parce que les autres, ils en ont marre de penser qu'il n'y a que lui qui a des bonnes idées. Les autres n'ont pas de bonnes idées. Donc il veut les imposer à tout le monde. Voilà. C'est ça qui agace les autres. C'est que, attends, les Allemands, nous aussi, on a des idées. Les Suédois, nous aussi, on a des idées. Pourquoi il faut que ce soit les Français qui l'imposent ? Vous voyez, c'est le problème d'imposer. Parce qu'on a une haute idée et une haute estime de soi. Et c'est ça le problème de l'agacement que pose le Français par rapport aux autres. Enfin, si vous écoutez un petit peu ce qui se dit sur la France. La construction, donc, de l'idéal du moi dans la relation avec les autres. Et principalement le regard des parents. C'est vrai que l'enfant veut plaire aux parents. Donc il essaye par un jeu de manipulation, etc. Alors c'est tous ces jeux de manipulation qui font parfois son identité tordue. Parce que ses parents sont tordus et si l'éducation est tordue, lui, il prend des attitudes tordues. Les études de psychologie montrent que la composante affective de l'identité, l'affect, le sentiment, ce que vous ressentez, l'estime de soi, est caractérisé par une auto-valorisation. Vous voyez, parce que l'enfant a besoin de valeur, il a besoin d'être reconnu, il a besoin d'exister. S'il n'existe pas, il va au suicide, quoi. Je veux dire, il n'a pas besoin d'être sur la terre, quoi. Donc c'est de la dépression. Donc il a besoin de valoriser. Donc si on ne le valorise pas, c'est lui qui s'auto-valorise. Et il y a une tendance à l'auto-valorisation naturelle qui existe chez l'enfant, qui construit sa personnalité. Il dit que nous déformons nos souvenirs, nous adaptons systématiquement nos jugements pour qu'ils nous soient favorables. De manière systématique, nous surestimons notre rôle dans les tâches collectives, nous rejetons les échecs en les attribuant aux autres, alors que nous nous sentons responsables des réussites. Nous sélectionnons les informations qui vont plutôt dans le sens de notre conception du monde, notre vision. Bref, nous organisons le monde pour avoir le bon rôle. Ça, c'est une tendance naturelle. Ça, c'est la tendance naturelle d'un homme, d'une femme, etc. Voilà. Si l'environnement ne favorise pas un équilibre de sa personne, il va tomber dans le déni, parce qu'il a tellement, toute sa vie, lutté pour s'affirmer, pour dire qui je suis, etc., que quand il a besoin de rentrer dans ce qu'on appelle la repentance, qui est simplement accepter, sortir du déni, eh bien, il ne peut plus. Et même un chrétien qui est né de nouveau, qui est baptisé dans les eaux du baptême, à l'âge de, peu importe, 40 ans, il est bloqué. Là, son salut n'est pas en cause. Il est sauvé. Alléluia. Il ira au ciel. Vous voyez ? C'est toute la différence que moi, en tant que pasteur, j'ai souvent dans mes réflexions. Mais est-ce que cette personne est sauvée ou elle n'est pas sauvée ? Alors, en fait, ce n'est pas le bon raisonnement. Hein ? Il y a des personnes dans les églises qui sont sauvées. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le problème du salut, c'est le problème de la conversion. La conversion. Des gens qui ne sont pas convertis. Ouais. Il y a une différence entre être sauvé et être converti. Il y en a qui sont étonnés là, de ça. Levez la main. Ouais. Donc je reste un peu là-dessus, parce que moi, c'était mon problème. Est-ce que cette personne est convertie? Est-ce qu'elle est sauvée? Non, il y a deux choses différentes. Sauver, c'est accepter Jésus. Ok? Celui qui est en prison, qui a fait 36 000 meurtres, il accepte Jésus, il est sauvé. Ok ? Mais s'il a fait 36 000 meurtres, est-ce qu'il va pour autant être libéré dans la vie active? Il ne va pas faire de prison. Je vous écoute, oui, non ? Non ? Pourquoi ? Parce qu'il y a les conséquences de son péché. Vous voyez ? Il y a le péché et les conséquences. C'est tout. Parce que les conséquences, c'est que, à un moment donné, voilà, le juge, il n'a pas confiance, qu'il ne va pas recommencer. Puis de toute façon, il mettra les gens en danger. S'il a fait 36 000 meurtres, bon, il peut se convertir en prison, mais bon, ça, c'est pas de nature à être pris en compte par la justice. Bon. Et il y a des chrétiens aux États-Unis, où il y a encore la peine de mort qui existe, qui sont convertis en prison et qui sont quand même à la chaise électrique, qui sont morts. Il y a eu même récemment des pétitions de toute l'Amérique. Je crois que c'est une jeune femme. Parce qu'elle était convertie, authentiquement. Et puis il a écrit son mémoire en disant, bon, ben, voilà, je pardonne et tout ça. Et puis il est mort sur sa chaise électrique. Bon, vous voyez, être sauvé, c'est une chose. Mais être converti, c'est autre chose. Ah, vous dites, bah oui, mais normalement, on ne peut pas être sauvé si on n'est pas converti. Bah non, mon œil. Si, aujourd'hui, bon, tu ne me croiras pas, mais je dis, écoute, voilà, à la sortie, il y a une Ferrari qui t'attend. Tu la prends. Tu ne pourras pas, parce que c'est vrai que j'ai pas de sous. Mais mais admettons que ce soit vrai, que j'ai gagné au loto et que je te donne ça. C'est pas parce que tu t'es converti que tu as cette Ferrari. C'est pas parce que je te le dis. Tu la prends, je te donne les clés. C'est une grâce. Vous voyez la différence entre la grâce. Je saisis la grâce. J'accepte le don, j'accepte le cadeau. C'est quand même pas très compliqué à faire ça. Okay. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent ouais, mais attends, c'est trop simple devenir chrétien, c'est ça. Et beaucoup d'inconvertis disent ça. Ils disent, mais attends, vous dites je veux accepter Jésus, c'est facile quoi. L'Église catholique dit il faut faire un pèlerinage, ceci, cela. Bon, maintenant ça a changé. Mais à une époque, c'était il faut faire un tas d'œuvres, il faut. Bon. Ça, c'est du sérieux. Ça, on peut y croire. Vous voyez ça, voilà, c'est quelque chose auquel on peut adhérer. Mais croire en Jésus comme ça, mais eh oh. Oh, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Il y avait deux larrons. Vous vous rappelez? Est-ce que le larron qui était à la croix, il a fait un tas de choses pour être sauvé? Il n'est même pas pu descendre de la croix. C'est sur la croix que Jésus a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, vous voyez là, le salut? Le salut, il est immédiat, par la foi, de croire que Jésus s'est substitué à moi pour le pardon de mes péchés. Ça, c'est la foi qui sauve. Mais la foi qui convertit, on est là dans le déni. Ah non, non, moi je suis très bien. Ah non, non, le pasteur me dit quelque chose. Bon, non, attention, hein, je cherche des poux. Alors très souvent, les gens qui ne veulent pas changer, ils cherchent des problèmes à celui qui leur dit il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Voilà. Bon, le problème, c'est eux, parce qu'ils ne bénéficient pas de la capacité de changer. Et toute leur vie, il y a des chrétiens qui jouent à ce petit jeu-là, qui cherchent des poux aux autres, qui leur disent, mais écoute, là, tu pourrais quand même changer. Ah non, mais c'est mon caractère. Ah non, 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 on ne touche pas. Ah non, non, moi, c'est ma culture. Ah non, ceci. Ah non, cela. Ah non, 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 tout le temps, ah non, ah non, ah non, ah non. Bah, qu'est-ce que vous voulez? Ils ne peuvent pas rentrer dans leur potentiel. Ce n'est pas possible. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est qu'on se fait du mal à soi-même. Je me fais comprendre là? Hein? C'est une triste réalité. Mais il faut en sortir. Et le seul moyen d'en sortir, c'est l'humilité. Dis-le à ton voisin, l'humilité. Attention, pas la fausse humilité. Attention, il y a une fausse humilité et une vraie humilité. Jésus s'est vraiment humilié. Pourquoi ? Parce qu'il est allé à la croix. La vraie humilité, on le voit dans les actes. La fausse humilité, on le voit dans les paroles. Les paroles sont toujours mensongères. Toujours. Plus ou moins. Des fois moins que plus, des fois plus que moins. Mais la parole, elle traduit toujours ce qu'on veut être. Notre identité qu'on voudrait avoir. Et donc on embellit, c'est ce que je viens de vous lire là, on embellit notre réalité. Hein? Mais ce qui est important, c'est le cœur. Or Jésus voit le cœur. Il voit notre cœur, il voit notre état, il voit notre tristesse, il voit voilà, les souffrances qu'on a pu avoir, il voit l'identité qui s'est mal construite. Hein? Il y a même des identités qu'on appelle des pervers narcissiques. Alors le narcissisme, c'est tout à fait normal. Chacun, on est construit sur le narcissisme. Puisque c'est comme ça que l'enfant grandit. C'est, voilà, l'enfant, s'il n'était pas narcissique, il n'existerait pas. Donc c'est normal. Ce qu'il faut, c'est en sortir. Et, bon, on en gardera toujours un petit peu. C'est le pervers, parce que le mot pervers, c'est perversion. C'est-à-dire, on mélange le bien et le mal. On, voilà. Et là, c'est une structure d'une personnalité qui, effectivement, ne peut plus sortir du jeu, parce que c'est un jeu. Mais bon, nous, on peut tous sortir de notre situation à condition d'être vrai. Être vrai. Dis à ton voisin, être vrai. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu dit une chose. C'est la vérité qui libère. La vérité sur moi-même, la vérité sur les autres, la vérité sur Dieu, la vérité sur le monde, la vérité sur les choses. Tout ce qui est vrai est quelque chose qui nous amène à la libération. La vérité libère, nous donne la liberté d'être ce que Dieu veut que nous soyons. Amen. Et pour ça, il faut être vrai, il faut accepter d'être vulnérable. Mais comme on est tous, pourquoi se cacher ? On est tous vulnérables. Hein ? Le problème, c'est de ne pas juger. Hein, vous avez déjà eu un message sur le jugement par Arnaud. Le problème, c'est pas de juger. Le problème, très souvent, du français, du chrétien français, c'est qu'il juge. Moi, j'étais étonné la première fois que je suis allé au Canada. J'étais 2 ans au Canada, quand j'avais 20 ans, pour faire mon service national. Et j'étais étonné que les gens ne se jugent pas. J'ai vu dans la rue des choses, voilà. Je dis, waouh, les Français, tous se seraient retournés, auraient vu cette dame en short rose avec 120 kilos, avec un couteau, je ne sais pas pourquoi il y a un couteau dans la main. Bon, enfin, voilà, c'était ahurissant, mais personne ne juge. Voilà. Et, bon, c'est, enfin, pour moi, c'était étonnant, avec Michel, on regardait. Tiens, personne ne regarde, il n'y a que nous qui regardons. Voilà, voilà. Vous voyez, c'est une culture aussi de jugement. Donc si on est culture de jugement, de critique, de machin, etc., il n'y a rien à faire. On ne peut pas rentrer dans son potentiel. Parce que la Bible dit de ne pas juger. Chacun répondra devant Dieu de son attitude, son comportement, tout ça, voilà. Mais nous, on a une attitude de critique, de jugement. Bon, bien sûr, nous, on justifie en disant, c'est bien, il faut juger. Voilà. Oui, la Bible dit ne pas juger. Mais ça, c'est beaucoup d'humilité. C'est beaucoup accepter l'autre tel qu'il est, etc. Et ça, on a tout un travail d'identité à faire pour laisser le Seigneur nous travailler. Amen. Alors je termine en donnant la réponse à la question que vous avez posée, la réponse à la question qui était qu'est-ce que c'est que le péché ? Le péché, c'est une bêtise, ce qui déplaît à Dieu, une désobéissance, manquer le but, se détourner, etc. C'est les réponses que vous avez données. La définition que je voudrais vous donner de ce message sur le péché, c'est Kierkegaard, un écrivain danois, je crois, chrétien, qui a écrit ça. Il dit par désespoir. Alors écoutez bien, par désespoir. Il dit, c'est de ne pas vouloir être soi-même devant Dieu. Vous pouvez noter, par désespoir, ne pas vouloir être soi-même devant Dieu. Ça, c'est le péché de l'identité. C'est-à-dire qu'on préfère se désespérer, rester dans le déni, oh, moi je suis bien, ceci, cela, enfin voilà, plutôt que d'accepter d'être soi-même devant Dieu. C'est-à-dire, même devant Dieu, on veut être quelqu'un d'autre. Et ça, Dieu le respecte, mais il ne peut pas nous changer. Si on ne dit pas, Seigneur, change-moi. Là, tu vois, là, il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai besoin d'être changé. Donc, le péché de l'identité, et c'est le péché le plus grave, plus que le péché sexuel. Vous voyez, on voit plus le péché sexuel, ouais, cette fille ou machin, etc., fait des péchés sexuels et tout ça. Ça, c'est les actes. Mais là, ce dont on parle, c'est des motivations intérieures. Par désespoir, on ne veut pas être soi-même devant Dieu. Pourtant, les 10 commandements, les 2 premiers commandements, les plus importants que Dieu a donnés à son peuple, a dit « Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. » Et ça, c'est adorer quelqu'un d'autre que moi, que d'être dans ce péché d'identité, de ne pas vouloir être soi-même devant Dieu. Donc vous voyez, c'est de l'être, c'est pas du faire. Il y a beaucoup de faire là, et certains êtres ignorer et mépriser Dieu, oui, parce que c'est aussi du mépris de Dieu. Ça, c'est du mépris de Dieu, de ne pas vouloir être soi-même, alors que c'est tellement bête, puisque Dieu nous voit comment on est. Donc c'est tellement bête que c'est dommage, parce que Dieu nous connaît et il sait qui on est. Il nous a connus avant même la fondation du monde. Amen. Alors prions pour que le Seigneur donne cette humilité de reconnaître qui nous sommes, de nous laisser éclairer. Et le Seigneur utilise un tas de moyens. Peut-être des gens, peut-être votre épicière vous dira qui vous êtes. Peut-être vous demandez, ah mais attendez, comment tu réponds? Ben voilà, c'est déjà un reflet. Et vous pouvez vous repentir. Seigneur, j'ai peut-être mal répondu. Vous voyez, c'est s'accepter d'être remis en cause par quelqu'un d'autre, pour un inconverti, par n'importe qui. Mais c'est de reconnaître, Seigneur, c'est vrai, certaines, peut-être. Vous en faites pas. Si vous recevez une remarque de quiconque qui n'est pas vrai, ben, laissez tomber. Hein. C'est pas le problème. Mais si c'est vrai, ben, laissez pas tomber et dites, Seigneur, voilà, c'est une occasion pour moi de rentrer dans mon identité, d'être moi-même devant toi. Seigneur, nous te remercions parce que tu as un plan pour chacun de nous, tu as une destinée et tu veux nous faire entrer pleinement dans le potentiel que nous avons, mais nous-mêmes, nous sommes souvent notre propre obstacle et nous te demandons ce matin d'aider chacun à accepter d'être vrai devant toi d'abord. Parce que le fils prodigue a dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. D'abord le ciel. Seigneur, c'est un péché contre toi que de vouloir être masquer mon identité, mais aussi contre les autres, contre nos bien-aimés, contre ceux qui souffrent de nous voir comme ça. Seigneur, pardon. Aide-nous à changer. Aide-nous à nous convertir. Aide-nous à faire demi-tour, à faire, Seigneur, un 180 degrés, parce que nous acceptons ce que tu dis sur nous, quelle que soit la personne qui nous le dit. Alors, Seigneur, merci. Merci pour cette grâce que tu nous fais, pour que, comme Pierre, qui a eu cet entretien avec toi, où tu lui as demandé 3 fois si il t'aimait, eh bien, Seigneur, tu lui as fait comprendre que seul toi, tu sais qui nous sommes, que nous soyons vrais devant toi, vrais devant les hommes, vrais pour que tu puisses nous changer. À salut, te prions au nom de Jésus.